Archives RTF, 1971.
Vous avez connu un autre grand personnage de l'affaire Dreyfus, c'est le colonel Picard.
Oui, le colonel Picard. À distance, je vous dirais que on était amoureux de lui. On pouvait pas faire autrement.
Henriette Psicari, écrivaine née en 1884 et petite fille d'Ernest Renan, fut une ardente Dreyfusarde, fascinée par Picard.
Il était charmant d'abord, il avait l'air de sortir comme ça d'une grande image épinale avec des yeux bleus, il ne parlait que musique, poésie, littérature, il était doux, il était charmant et on ne pouvait pas faire autrement que de l'aimer.
À la fin du 19e siècle, les Dreyfusards ont eu tendance à idéaliser Picard.
Mais en réalité, je crois que nous nous faisions du colonel Picard une toute autre idée de ce qu'il a été, en réalité.
En réalité, qui était cet homme qui a su démasquer le véritable traître? Eh bien, vous allez constater que la réponse est troublante.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'affaire Dreyfus durera 12 ans. C'est le prototype de l'erreur judiciaire. Et on y puise deux enseignements. Le premier, c'est qu'il est bien facile de se tromper. Et le second, c'est que lorsqu'on s'est trompé, il est bien difficile de revenir en arrière et de reconnaître son erreur.
Quand on survole la chronologie de l'affaire Dreyfus, on est vite tenté d'offrir au colonel Picard un statut de héros. C'est vrai qu'en 1896, tout semblait perdu pour le pauvre capitaine alsacien séquestré sur son île du diable. Et puis voilà que la rigueur et la droiture du colonel Picard viennent à sa rescousse.
Je conclus, mon général. Premièrement, la culpabilité d'Esterhazy est démontrée. Deuxièmement, le bordereau est de sa main, ce qui pose un problème particulier.
Grâce à une enquête minutieuse de Picard, le clan Dreyfus retrouve une lueur d'espoir. Et de ce point de vue, Picard mérite les honneurs de nos mémoires. Mais que sait-on vraiment des premières motivations de cet officier d'état-major? Était-il lui-même sensible à la cause Dreyfusarde ou avait-il au fond d'autres aspirations? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Personne ne connaissait Dreyfus. Les uns étaient convaincus qu'il était coupable, les autres devinaient qu'il était innocent, mais aucun d'eux ne l'avait vu jamais.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Alfred Dreyfus, le combat de la République. Quatrième épisode, sur les traces du traître.
Vous vous souvenez de l'affaire Dreyfus?
Ah, l'affaire Dreyfus.
Ça a été un coup de tonnerre.
Un drame dans la vie des Français.
J'accuse.
On allait les uns contre les autres se battre à coups de poing.
L'affaire Dreyfus, on s'y battait pour une idée au-dessus de l'homme.
J'accuse.
Il représentait la justice, la vérité, l'innocent condamné.
Je suis innocent.
Parti de
l'opinion,
le
jugement
était divisé.
Erreur judiciaire, justice, liberté, vérité. Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre sur l'affaire Dreyfus et de l'affaire Dreyfus.
Le récit débute à Strasbourg, le 6 septembre 1854. C'est le jour de naissance de Marie-Georges Picard, fils d'un percepteur des impôts sous le Second Empire. Une famille rigoureusement catholique. Après l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne en 1872, les Picard optent pour la France, exactement comme la famille Dreyfus. Élève saint-cyrien au début des années 1870, Picard devient au fil des années un officier hors du commun, au point d'être nommé, le 1er juillet 1895, chef de la section de statistiques, le service de contre-espionnage français. Il a alors 41 ans.
Félicitations. Merci, mon général. Ne manquez pas de me tenir pleinement au courant, n'est-ce pas, mon cher garçon? J'ai horreur des mauvaises surprises.
C'est le plus jeune lieutenant-colonel de l'histoire de l'armée française.
C'est quelqu'un de brillantissime.
L'historien Philippe Auriol.
C'est un intellectuel. Le mot est déjà là. On n'attend pas, j'accuse, en fait, hein, pour parler d'intellectuel. C'est une figure de militaire assez atypique. Et donc, du coup, il est bien évidemment respecté, puisqu'il est commandant puis lieutenant-colonel et que l'armée fonctionne comme ça. La hiérarchie est importante. Mais il est différent et on l'apprécie assez peu. Donc voilà, ça, c'est le Picard qui arrive à la section de statistiques et qui, effectivement, remet beaucoup de choses en question. Et entre autres, la manière dont va être gérée la voie ordinaire. La voie ordinaire, pour mémoire, c'est ces documents qui viennent de la poubelle de l'ambassade d'Allemagne et qui ont permis de découvrir le bordereau. Et jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est qu'Henri gardait les papiers chez lui pour les trier et qu'ensuite il les ramenait au bureau le lendemain. Ce qui est un truc qui est assez étonnant quand même quand on y réfléchit. Et Picard est assez scandalisé par ça, parce que ce sont quand même des documents qui sont, on dirait aujourd'hui, classés secret défense et on peut pas les promener chez soi, quoi. Donc voilà.
C'est sans risque, mon colonel. Il n'y a que ma femme et moi.
La question n'est pas là. Du matériel aussi sensible doit aller au bureau aussitôt ramassé.
Et donc, ce que met Picard en place, et qui passe pas bien du tout, c'est que maintenant, tout doit passer par lui. Et voilà. Et ensuite, c'est donné aux autres, mais il est le premier à regarder les papiers. Et les papiers, après, on va les restaurer, puisque la plupart du temps, ils sont déchirés, brûlés, etc., sur place, et pas dans les domiciles des différents officiers. Donc voilà. Et ça, ça passe pas du tout, du tout, du tout.
Quelques mois après sa prise de fonction, alors que le dossier Dreyfus est clos depuis plus d'un an, arrive entre les mains du colonel Picard un télégramme récupéré dans les poubelles de l'ambassade d'Allemagne. À l'époque, on appelle ça un petit bleu, parce qu'il est de couleur bleue.
Monsieur, j'attends avant tout une explication plus détaillée que celle que vous m'avez donnée l'autre jour sur la question en suspens.
Et sur ce petit bleu, d'apparence banale et qu'on a visiblement renoncé à expédier, figure un détail qui retient l'attention de Picard.
Monsieur le commandant Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance.
Ce qui est incroyable, c'est que d'un côté, il y a le texte de correspondance et quand on retourne le petit bleu, il y a l'adresse. Il y a un nom et une adresse. Commandant Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance. Et donc, Picard décide de mener l'enquête pour essayer de savoir qui est ce commandant Esterhazy. Pas une seconde, il ne peut penser que le commandant Esterhazy est le véritable coupable. Pas une seconde. Il n'est pas question, bien évidemment, de remettre en question la culpabilité de Dreyfus, qui est une évidence, et c'est une évidence pourquoi ? Parce que Dreyfus a été condamné par un tribunal militaire et on ne discute pas de ça. Voilà. Et donc il fait son enquête. Il n'en parle pas à ses chefs. Et il n'en parle pas à ses chefs, on lui reprochera plus tard pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, il a envie de briller avec cette affaire et il a l'intention d'en parler à ses chefs le jour où il aura un dossier suffisamment conséquent. Et il se souvient de ce qui s'est passé en 1894 et de la panique qu'il y a eu dans les bureaux quand le bordereau est arrivé et il n'a pas envie que ce soit la même panique. Donc en fait, pour éviter que tout le monde fasse n'importe quoi, eh ben, il décide de constituer un dossier et il va mettre comme ça quelques semaines à le constituer.
Je veux tout savoir de lui. Comment il vit ? Qui il voit ? Et en particulier, a-t-il un rapport quelconque avec l'ambassade d'Allemagne ? Dans quel délai pouvez-vous me contacter ?
Donnez-moi une semaine.
Très discrètement, donc, le colonel Picard mène son enquête. Et au fil des semaines, il est de plus en plus troublé.
Il va assez rapidement s'apercevoir de quelque chose. C'est qu'en fait, l'Esterhazy en question est très lié à l'affaire Dreyfus. Et que ce n'est pas celui à la place duquel Dreyfus a été condamné, puisqu'on ne peut pas remettre en question ça, mais que c'est probablement le complice de Dreyfus.
Spécimen d'écriture commandant Esterhazy, etc.
Jusqu'au moment où, effectivement, il récupère le bordereau, Picard, pour comparer.
C'est incroyable, je connais cette écriture.
Et qu'il s'aperçoit que, effectivement, si l'écriture de Dreyfus ressemble à celle du bordereau, elle est absolument identique à celle d'Esterhazy, dont il a récupéré un certain nombre de pièces de comparaison.
En scrutant l'écriture sur le bordereau, la pièce qui a inculpé Dreyfus, Picard s'aperçoit très vite qu'il s'agit en réalité de l'écriture d'Esterhazy.
Les dés sont les mêmes.
Ébranlé par sa découverte, Picard exige aussitôt d'avoir accès au fameux dossier secret qui a servi à condamner Dreyfus.
Vous savez, il n'y a pas grand-chose dans ce dossier.
Assez pour convaincre les juges du tribunal militaire. Non.
En fait, ce dossier secret, il en connaît l'existence, Picard, mais il l'a jamais vu. Et là, il voit que ce dossier est d'une vacuité définitive. Et là, il comprend. Et à partir du moment où il comprend et qu'il a eu les spécimens d'écriture qui lui permettent d'avoir l'identité, il pense qu'il doit agir. Mais la question qui est intéressante, on présente Picard souvent comme quelqu'un qui, à partir de ce moment-là, a brisé sa carrière et qui a décidé de faire valoir la justice au péril de cette carrière qu'il menait aussi bien. C'est pas exact. C'est pas exact pourquoi ? Parce que si Picard décide d'agir, c'est pas parce qu'un innocent est en train d'expier un crime qu'il n'a pas commis et qu'un autre a commis dont il a le nom. Mais c'est parce que, comme le dit Picard, il fait surveiller ces gens-là. Ces gens-là, c'est les Juifs, c'est la famille Dreyfus. Et qu'il s'aperçoit qu'en fait, la famille Dreyfus est en train d'avancer dans son enquête. Grâce à Bernard Lazare, grâce aux agents, etc. Parce qu'il y a vraiment un système de surveillance qui est assez efficace. Et il va voir donc ses chefs en leur disant « Je sais que Dreyfus est innocent, j'ai l'identité du véritable coupable, mais je pense que je ne vais pas être longtemps le seul à le savoir. » Si jamais ces gens-là, c'est-à-dire les Juifs, c'est-à-dire les Dreyfus, arrivent au même résultat que nous et qu'ils livrent l'information, nous sommes foutus. Alors que, si jamais nous anticipons la catastrophe qui ne va pas tarder à arriver, en fait, nous allons en sortir absolument grandis, et donc tout va s'arranger pour le mieux, et l'armée va en sortir absolument glorifiée, plus encore glorifiée qu'elle ne l'est par définition et par principe, etc., etc. Le problème, c'est que l'affaire Dreyfus implique tellement de responsabilités dans l'illégalité qui a été commise. Et on a retrouvé un document tout à fait intéressant d'ailleurs qui prouve qu'il y a une sorte de serment qui a été passé entre tous les acteurs de l'affaire autour du général Mercier pour ne jamais parler de ce qui s'était passé. Et donc en fait, ce que vont décider le chef d'état-major, le général de Boisdeffre, et le sous-chef d'état-major, le général Gons, c'est bien sûr de ne rien faire. De ne rien faire pourquoi ? Parce que si jamais Dreyfus est innocenté parce que le véritable coupable Esterhazy est condamné, ça veut dire que Mercier et tous les gens qui ont travaillé avec lui à l'époque vont aller remplacer Dreyfus à l'île du Diable. Donc pour se protéger eux-mêmes, ils vont décider de protéger le véritable traître. Et naturellement, Picard devient dangereux. Picard devient dangereux pourquoi ? Parce qu'il sait quelque chose.
Je me demande si je pourrais vous dire un mot, mon général.
Là, tout de suite ?
Si ça ne me dérange pas.
Laissez-nous.
Quand il dit à son chef, Gons, qu'on doit faire quelque chose, et que Gons lui dit « mais non, en fait, et qu'est-ce que ça peut vous faire à vous ?» Vous, Picard, qui êtes antisémite, que ce juif ou non reste à l'île du diable, Picard répond « Je ne sais pas ce que je ferai. Tant que je serai militaire, j'aurai le respect de mon uniforme et donc des ordres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, au final, je n'emporterai pas ce secret dans la tombe. » Donc en fait, il devient dangereux. Et il devient d'autant plus dangereux que tout ce qu'il a prévu, c'est-à-dire que la famille Dreyfus va découvrir, eh ben, ça va réellement arriver.
Je pensais m'être exprimé clairement. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même.
Donc, c'est parce qu'il veut protéger l'honneur de l'armée et éviter un scandale face à l'enquête menée par la famille Dreyfus depuis des mois que le colonel Picard veut confondre le commandant Esterhazy. D'autant plus que de son côté, Mathieu Dreyfus multiplie les ruses pour venir en aide à son frère. Et début septembre 1896, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, il organise la rumeur de la fausse évasion du capitaine Dreyfus pour le remettre au cœur de l'actualité. Et ça fonctionne. Paniqué par le retour du nom d'Alfred Dreyfus dans la presse, tout en sachant désormais qu'Esterhazy est le véritable coupable, l'état-major réagit pour étouffer l'incendie qui couve.
L'état-major va faire une bêtise absolument extraordinaire, c'est de donner les preuves de la culpabilité de Dreyfus. Et pour ça, ils vont publier un article dans un journal qui s'appelle L'Éclair, nous sommes le 14 septembre 1896, et qui est un article, en fait, qui, pour la première fois, révèle l'existence du dossier secret.
Comprenez bien. Jusqu'à présent, seul le général Mercier et quelques hauts gradés connaissaient l'existence de ce dossier secret, ce faux dossier d'accusation, qu'ils ont fabriquée pour faire condamner Dreyfus. Mais désormais, avec l'article de l'éclair, c'est une information publique.
Puisque Dreyfus est coupable, de toute façon, nous en avons l'intime conviction. On peut décider de trouver des preuves.
Les Dreyfusards n'avaient pas la preuve de l'existence de ce dossier secret. Et devant ces nouveaux éléments, Mathieu Dreyfus accepte, début novembre, que le journaliste Bernard Lazare publie sa brochure intitulée « Une erreur judiciaire » et qui affirme que Dreyfus est innocent.
Bernard Lazare, dans « Une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus », 1896. Il était soldat, mais il était juif. Et c'est comme juif surtout qu'il a été poursuivi. C'est parce qu'il était juif qu'on l'a arrêté. C'est parce qu'il était juif qu'on l'a jugé. C'est parce qu'il était juif qu'on l'a condamné. C'est parce qu'il était juif que l'on ne peut faire entendre en sa faveur la voix de la justice et de la vérité. Et la responsabilité de la condamnation de cet innocent retombe tout entière sur ceux qui l'ont provoqué par leurs excitations indignes, par leurs mensonges et par leurs calomnies.
La brochure de Lazare va paraître, elle fait un scandale absolument incroyable et Lazare, dans sa brochure, donne le texte du bordereau.
1. Une note sur le frais hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. 2. Une note sur les troubles de couverture.
Et le texte du bordereau qu'il donne est exact et il ne peut pas se tromper puisqu'il a eu une copie grâce à Mathieu, qu'il l'a eu grâce au commandant Forzinetti, le commandant du Cherche-Midi, le directeur de la prison du Cherche-Midi, le véritable premier lanceur d'alerte de l'affaire, comme on dit aujourd'hui, et qui a décidé, contre toutes les règles, de donner un certain nombre de documents en toute discrétion à Mathieu Dreyfus et entre autres une copie du bordereau. Donc effectivement, Mathieu a cette copie, il l'a donnée à Lazare et Lazare la publie. Le journal L'Éclair répond en disant que le texte donné par Lazare est faux et donne un texte qui, lui, est complètement faux. Et pour mettre fin à la discussion, Le Matin décide de publier le texte réel du bordereau en facsimilé, donc on ne peut plus douter à ce moment-là, et qu'il a récupéré par un des experts, qu'il l'a vendu. C'était une manière de faire pas mal d'argent, puisqu'à l'époque, déjà, les scoops se vendaient d'une manière tout à fait considérable.
Et cette publication, elle est cruciale, parce qu'en effet, elle met en porte-à-faux l'état-major.
Bah oui, elle est cruciale déjà parce qu'elle permet d'avoir le texte. Et donc on va enfin pouvoir discuter, parce que quand on peut pas discuter, c'est terrible. Là, on va pouvoir discuter. Ça permet de pouvoir montrer que si, indéniablement, les écritures se ressemblent, elles ne sont pas identiques. Et donc que toutes les expertises qui allaient dans le sens de l'identité tiennent peu. Et voilà, et en fait, ça lance l'affaire réellement à ce moment-là. C'est assez incroyable.
Avec la publication du fac-similé du bordereau dans Le Matin, pour la première fois, les Dreyfus tiennent la preuve que l'écriture n'est pas celle d'Alfred. Au sein de l'état-major, on désigne le coupable évident de cette bérésina qu'on redoute plus que tout.
Bien sûr, Picard se trouve derrière tout ça.
Picard ? Vous croyez qu'il agit pour le compte du syndicat des intérêts juifs ?
Je ne le crois pas, monsieur le ministre. Nous en avons la preuve.
Et là, ce que va penser de bonne foi, sans doute, l'état-major, et en tout cas le général Gons, parce que j'ai trouvé des papiers de surveillance de Picard absolument incroyables, c'est que, probablement que ces informations qu'ont eues ces gens-là, c'est-à-dire les Juifs, c'est-à-dire la famille Dreyfus, c'est Picard qui les leur a données. Et donc, à partir de ce moment-là, on décide de casser Picard. De casser Picard, mais très tranquillement, c'est-à-dire en l'envoyant dans des missions qui n'ont rigoureusement aucun intérêt, où on va l'éloigner de plus en plus, dans l'Est, puis dans le Sud, puis au fin fond de la Tunisie.
Suis-je rayé des cadres de l'armée ?
Mais non, mon cher garçon, vous ne serez parti que quelques jours.
Voilà. Et l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il soit le plus loin possible, il n'a plus le droit de revenir en France, et qu'il se taise. Et effectivement, Picard, on lui a dit de se taire, ne va pas parler. Il y a un ordre qui a été donné, et cet ordre, il va le respecter. C'est un militaire. Le premier devoir d'un militaire, c'est l'obéissance.
Mon général.
À nouveau, l'état-major se trompe, car le colonel Picard choisit de rester loyal à l'armée, qu'il place au-dessus de tout. Et par ailleurs, comme s'en désolait la Dreyfusarde Henriette Psicari, Picard avait quelques travers détestables.
D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que ce défenseur de Dreyfus était antisémite.
Et alors, justement, bah vous mettez le doigt sur ce qui nous irritait le plus chez Picard, c'est qu'il était antisémite. Remarquez, vous pouvez y trouver même une certaine noblesse, parce que c'est assez noble, évidemment, d'aller contre ses idées pour défendre quelqu'un. Mais enfin, quand même, pour nous, être antisémite, c'était... On était condamné d'avance si on était antisémite. Jamais un principe antisémite n'est entré dans notre éducation ni dans notre famille.
Soldats ! On dégrade un innocent !
De quoi a-t-il l'air, Picard ?
D'un tailleur juif qui pleure tout son or qui va à la poubelle.
L'antisémitisme de Picard est assez fréquent chez les officiers français de l'époque. Il est à la fois le fruit d'une culture catholique anti-judaïque et d'une phobie de voir la vieille France diluée dans un bain cosmopolite. Un antisémitisme qu'on croise régulièrement parmi les élites militaires et bourgeoises. Mais à la fin du XIXe siècle, il existe une autre forme d'antisémitisme, y compris chez des personnalités qui vont devenir ensuite de hautes figures dreyfusardes.
Je demande la parole.
À qui ai-je l'honneur ?
Jean Jaurès.
D'abord, dressons un portrait de Jean Jaurès au moment de l'arrestation de Dreyfus. Qui est-il à ce moment-là ?
Alors, Jean Jaurès, au tout début des années 90, il est en train de faire sa mue socialiste, bien qu'il ait toujours dit qu'il avait été au fond toujours socialiste.
Christophe Prochasson, historien et biographe de Jean Jaurès.
Au tout début des années 90, c'est un jeune républicain, universitaire, normalien, qui est un agrégé de philosophie, un esprit très brillant, et qui a été environné de camarades brillantissimes, une pléiade d'intellectuels, et c'est d'abord un intellectuel, je dirais. Hein. Mais il s'est déjà engagé dans la vie politique, puisque il a été un jeune élu en 1885, jeune républicain, proche de Jules Ferry, au fond. Et c'est progressivement, petit à petit, qu'il se rapproche du socialisme. Alors, il y a sans doute deux raisons majeures. Il y a d'abord une évolution personnelle, une réflexion personnelle. On le voit en particulier dans un texte de ces années-là, qu'on a longtemps d'ailleurs ignoré, qui traite de rapports notamment entre le socialisme et la religion. Je ne dirais pas que Jaurès est un esprit religieux, mais il a une sensibilité, une spiritualité républicaine. Il y a quelque chose, même chez les laïcs, qui relève de la spiritualité. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui observe le monde. Et après tout, il a été député et qui est assez marqué, notamment par les grèves de 1892, hein, les grèves de Carmaux, de mineurs, dans lesquelles il s'est beaucoup impliqué. Et c'est un peu ce double mouvement, à la fois l'observation d'un mouvement social qui se renforce, qui s'impose, et puis un itinéraire fait de lectures personnelles. Hein. Sa thèse complémentaire porte sur les origines du socialisme allemand. Hein. Le socialisme est pour lui aussi une question intellectuelle et c'est comme ça qu'il se rapproche petit à petit du socialisme.
La parole est à monsieur Jean Jaurès, député du Tarn.
Alors, comment a réagi Jaurès à la condamnation de Dreyfus fin décembre 1894 ? Eh bien, commençons par écouter le témoignage de Charles-André Julien, historien, militant de la SFIO et qui a connu Jaurès.
Jaurès a été long à se prononcer sur l'innocence de Dreyfus. Il se méfiait des riches juifs qui devenaient soudainement démocrates, de tout un milieu qui lui était plutôt rebelle.
Alors Jean Jaurès apprend, comme tout le monde, l'arrestation au mois d'octobre et puis la condamnation au mois de décembre de ce capitaine juif. au moment de l'arrestation, il intervient à la chambre où il se trouve réélu à ce moment-là. Il fait une intervention un peu curieuse a posteriori, puisque on l'interprète d'ailleurs souvent à tort, cette intervention, puisque il dit devant ses collègues, c'est tout de même curieux que lorsque un pauvre soldat ordinaire est considéré comme un traître, on le fusille. Et lorsqu'un officier d'état-major est considéré comme un traître et soupçonné, puisqu'il n'est pas encore condamné à ce moment-là, on ne le passe pas par les armes. Et là, il dénonce une inégalité. Au fond, on sent qu'il a basculé du côté du socialisme. On est en 1894 et que cette sensibilité-là est très nette. Et puis, pendant ses premiers mois, il est un peu sur ce registre-là. Et après la condamnation, il est comme tout le monde, je dirais. Comme 98% ou 99% des Français, toutes classes et toutes sensibilités confondues, il fait confiance à l'arche sainte de la nation qui a jugé ce capitaine comme un traître. Et pourquoi le mettre en cause ? Et cette conviction s'accompagne parfois de propos qui sont d'ailleurs d'époque aussi, si j'ose dire, en disant qu'en dépit de ce qu'il appelle parfois la puissance juive, c'est-à-dire la mobilisation, où ils ne sont pas bien nombreux d'ailleurs, de quelques amis ou de membres de la famille de Dreyfus pour se battre, pour faire reconnaître son innocence, eh bien, ce qu'il appelle cette puissance juive, il le regrette, il la dénonce comme voulant intervenir dans cette affaire.
Et l'affaire Dreyfus, qu'est-ce qu'on en dit chez vous ?
Le parti n'a pas à se mêler de cette triste mésaventure d'un officier bourgeois, même s'il est juif.
Même s'il est innocent ?
Ça, ce serait une autre histoire.
Au début, il y a sans doute, encore une fois, la conviction qu'on ne peut pas se tromper, qu'il a cette confiance dans l'armée, que d'autre part, il se méfie aussi dans la mesure où il sent bien que la cause, comme tous les socialistes de son temps, n'est pas une cause qui intéresse au premier chef le socialisme, qui a d'abord comme préoccupation l'émancipation du prolétariat, de la classe ouvrière. Donc ça ne peut pas être en haut de l'agenda d'un socialiste. Il partage aussi ce sentiment. Il le partage d'autant plus qu'il est entré en socialisme, chose qui évoluera ultérieurement, mais plutôt sur les bases de ce courant marxiste du socialisme qu'on appelle le courant guédiste, du nom de Jules Guédes, de son chef, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas du tout Dreyfusards au début et ne le seront d'ailleurs jamais véritablement. Donc il est proche de ces gens-là.
Il ne peut rien y avoir de changé dans la société actuelle tant que la propriété capitaliste n'aura pas été supprimée, tant qu'elle n'aura pas fait place à la propriété sociale, c'est-à-dire à votre propriété, à vous.
Et puis, il y a aussi un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en raison même de cette sensibilité générale anti-Dreyfusard, Jean Jaurès, c'est quelqu'un qui fait de la politique et qui pense que dans les populations auxquelles il s'adresse, au fond, défendre les Juifs n'est peut-être pas là non plus la priorité. D'autant plus qu'il va y avoir des élections auxquelles il faudra qu'il soit réélu en 1898. Et pendant donc toute cette première période-là, on ne peut pas dire donc qu'il se rallie à la cause dreyfusarde, en dépit des efforts que font ses amis qui composent ce petit milieu des premiers Dreyfusards, qui sont à l'école normale supérieure avec lequel il a gardé des relations, notamment le fameux bibliothécaire Lucien R, mais aussi des amis beaucoup plus jeunes comme Léon Blum, ou même le premier Dreyfusard, comme l'appelait l'écrivain Charles Péguy, Bernard Lazare, qui est allé voir dès le mois d'octobre 1894 Jean Jaurès pour essayer de le convaincre, en vain. Voilà donc où nous en sommes, il y a donc du chemin à faire.
Un chemin que va emprunter Jean Jaurès, bien sûr, pour devenir ensuite un Dreyfusard de haute volée. Mais au départ de l'affaire, il est en retard, contrairement à une autre figure morale qui a une vision plus perspicace de certaines violences dans la société.
Ignoble, immonde, C'est une honte pour la France, ça. C'est plus du journalisme, ça.
Après, qui en as-tu ?
Eh, Drummond, encore Drummond, toujours Drummond.
Il aime pas les Juifs. Il a le droit.
Il a peut-être le droit de ne pas aimer les Juifs, mais enfin, tout de même.
Émile Zola, pour les Juifs, Le Figaro, 16 mai 1896. Depuis quelques années, je suis la campagne qu'on essaie de faire en France contre les Juifs, avec une surprise et un dégoût croissant. Cela m'a l'air d'une monstruosité. Je veux dire une chose en dehors de tout bon sens, de toute vérité et de toute justice. Une chose sotte et aveugle qui nous ramènerait à des siècles en arrière. Une chose enfin qui aboutirait à la pire des abominations. Une persécution religieuse ensanglantant toutes les patries. Là est ma continuelle stupeur qu'un tel retour de fanatisme, qu'une telle tentative de guerre religieuse ait pu se produire à notre époque, dans notre grand Paris, au milieu de notre bon peuple. Et cela dans nos temps de démocratie, d'universelle tolérance, lorsqu'un immense mouvement se déclare de partout vers l'égalité, la fraternité et la justice. Désarmons nos haines. Aimons-nous dans nos villes. Aimons-nous par-dessus les frontières. Travaillons à fondre les races en une seule famille, enfin heureuse.
Si Émile Zola ne tarde pas à s'insurger contre le sort parfois réservé aux Juifs de France, Jean Jaurès et ses compagnons de route socialistes sont retenus par une culture antisémite propre à la fin des années 1890.
À la fin du 19e siècle, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'antisémitisme, de juifs, nous sommes dans une période, évidemment, qui n'est pas marquée par la tragédie majeure qu'a représenté évidemment la Shoah dans l'histoire du peuple juif, même si le peuple juif a été soumis, et combien de fois, à des massacres, et en particulier dans les années 1880. Mais il n'y a pas cette conscience de l'extermination qui, évidemment, a donné quelque chose de particulier à notre évaluation de l'antisémitisme, à notre évaluation morale de l'antisémitisme. Je dis ça parce que très important d'avoir cela en tête pour comprendre le rapport à l'antisémitisme et aux juifs en général, à la question juive, comme on disait à cette époque-là, dans le mouvement socialiste. Oui, bien sûr, pour des tas de raisons, les socialistes peuvent être antisémites. D'abord, il y a des socialistes qui font de l'antisémitisme une véritable obsession, hein. Notamment, un des grands théoriciens de l'antisémitisme fin 19e siècle, qui s'appelle Vacher de la Pouge, est un socialiste. Il est même inscrit dans le courant guédiste. Et ce Vacher de la Pouge est une référence majeure dans les théoriciens du socialisme. Le grand théoricien du socialisme, théoricien, je prends ce terme évidemment avec beaucoup de précautions, mais il est l'auteur d'un livre en 1886 qui s'appelle « La France juive », qui s'appelle Édouard Drummond. Et cet Édouard Drummond, il lui arrive de se piquer de socialisme, de se piquer de socialisme. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de frontière nette entre le socialisme et l'antisémitisme, pour une raison que l'on peut bien comprendre, c'est que le fait d'être juif, en quelque sorte, est moins perçu comme une question raciale, comme elle sera théorisée notamment par Drummond ou par Vacher de la Pouge, et puis plus tard, évidemment, par les nazis et tout l'antisémitisme du XXe siècle, mais au fond comme une question sociale. Autrement dit, le juif est d'abord perçu par les socialistes comme le capitaliste juif. Et Jaurès fait partie des gens qui pensent ainsi. Alors leur antisémitisme, évidemment, n'est pas un antisémitisme d'extermination, mais ils font une place particulière fondée sur une hostilité, en effet, aux juifs. Et être juif n'est pas très positif dans leur bouche. Il est équivalent à être capitaliste. Et il y a aussi un autre élément qu'il faut avoir en tête. Je l'évoquais à propos de cette terme de puissance juive sous la plume de Jaurès. C'est l'idée aussi que les juifs forment en quelque sorte une sous-société, hein, un complot même. On dira bientôt un syndicat. Et en effet, de ce point de vue-là, beaucoup de socialistes partagent ce genre d'idées, encore une fois, sans le placer au cœur de leur théorie, qui reste malgré tout dominé par la question de l'émancipation et d'universel, de l'universalisme qu'ils ont toujours porté.
Nous reviendrons à Jean Jaurès un peu plus tard dans cette série. Pour l'instant, reprenons le fil du récit. Souvenez-vous, le journal Le Matin a publié un fac-similé du bordereau, ce document qui a servi à condamner Dreyfus en décembre 1894. Alors, comment a réagi le commandant Esterházy ?
Je ne suis pas là. Pour personne, je suis parti, je suis mort.
En fait, Esterházy va être au courant assez tardivement.
Philippe Auriol.
Sans doute a-t-il eu une frayeur le 10 novembre 1896 quand Le Matin a publié le fac-similé du bordereau.
Oui.
Parce qu'il a dû le voir et il a vu son écriture.
Et il le connaît, le bordereau,
voilà.
En fait.
Et il le connaît bien puisque c'est lui qui l'a écrit. Donc là, il a dû avoir une petite panique. Maintenant, on ne sait pas grand-chose.
Un départ serait un aveu de culpabilité. Je suis coupable. Coupable de quoi ? D'être l'objet de la haine des Juifs ? C'est un titre de gloire, non de culpabilité.
Là, il faut revenir en arrière. Je vais être obligé de revenir un peu en arrière. Mais à partir du moment où l'état-major a pris conscience que tout allait dégénérer et qu'en fait, Picard avait raison, l'état-major va décider de protéger le véritable traître. Pourquoi ? Parce que si Esterházy passe en procès et qu'Esterházy est condamné, ça implique la révision du procès Dreyfus, ça implique, lors de cette révision, la mise au jour de la question du dossier secret, donc de la responsabilité de l'ancien ministre et des hommes de l'état-major, et donc de ces hommes de l'état-major et de l'ancien ministre qui vont tous se retrouver en prison. Donc pour se sauvegarder eux-mêmes, ils décident d'aider Esterházy. Donc Esterházy, à la demande du chef d'état-major, le général de Boisdeffre, et du sous-chef d'état-major, le général Gons, sera contacté par le lieutenant-colonel Dupatit Clam pour le protéger et essayer de lui donner la procédure à suivre pour que tout se passe pour le mieux, ce que Esterházy, qui est une tête forte, on va dire, ne fera pas, bien évidemment, puisque le grand plaisir d'Esterházy, c'est de s'amuser. Et d'ailleurs, il a beaucoup ri.
À propos, quel genre d'homme est-il, ce commandant Esterházy ? C'est un officier à panache, un peu fantasque. Un brave garçon, un brave tout court.
J'ai retrouvé ses souvenirs inédits que je vais essayer de publier là dans peu de temps. Il passe son temps à s'amuser en fait, parce qu'il trouve ça extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un traître, tout le monde le sait, mais il s'amuse comme un fou.
Fluctuat nec mergitur. Je plonge, mais je ne coule pas.
Pour échapper au scandale, les officiers de l'état-major, responsables de la machination contre Dreyfus, décident de protéger le traître Esterházy en étouffant l'affaire. Un dossier classé secret défense. De son côté, le colonel Picard, muté dans le sud tunisien pour s'assurer de son silence, rédige sous la forme d'un testament une note sur l'affaire Dreyfus adressée au président de la République. Alors, pourquoi le choix de cette forme testamentaire ?
Picard est en panique totale. Il a peur d'une chose, c'est qu'en fait, il devienne un nouveau Dreyfus. Et que peut-être on essaye d'une manière ou d'une autre de se débarrasser de lui. Donc il revient en France, il obtient une nouvelle permission, et là il va voir un vieil ami à lui.
C'est pourquoi ?
Je viens voir Maître Leblanc.
Mais je vous ai déjà vu. Vous êtes le colonel Picard ?
Excusez-moi.
Ce vieil ami s'appelle Louis Leblois, alsacien comme lui. Il n'y a que des Alsaciens dans l'affaire. Ami d'enfance et son conseil. Il est avocat. Et il lui raconte l'affaire après avoir beaucoup hésité.
Georges.
Bonjour, Martha.
Entre.
Il lui raconte l'affaire en ne lui disant pas tout, parce que tout ce qui est secret défense, il ne va pas le dire, mais en lui disant juste quelque chose d'important, qui est qu'il a fait une découverte terrible. Dreyfus est innocent, qu'il y a un véritable traître qui s'appelle Esterházy, et qu'il a peur qu'on en veuille à sa vie. Et il dit à son copain Le Blois, « Tu n'en parles à personne. » Et surtout pas à la famille Dreyfus. Hors de question, je te l'interdis formellement. Et si jamais un jour il m'arrive quelque chose, va voir le président de la République et révèle-lui la découverte que j'ai faite. Louis Leblois promet. Mais Louis Le Blois, dépositaire d'un trop lourd secret, ne peut pas garder ce secret-là. Il n'imagine pas qu'il soit possible, alors qu'il est au courant, de laisser un innocent griller sous le soleil de l'île du Diable. Donc il décide d'aller voir la grande figure alsacienne de Paris, c'est-à-dire August Schorr-Kessner, le vice-président du Sénat. Et là, nous bouclons la boucle. Il donne les documents que lui a confiés Picard, et là, Schorr-Kessner est complètement convaincu. Il demande à Louis Le Blois s'il peut en parler, et Louis Le Blois l'engage à le faire. Et Schorr-Kessner, dès le lendemain, nous sommes en juillet 1897, décide, comme il dit dans ses souvenirs, urbi et orbi, de dire sa conviction.
Note du sénateur Schorr-Kessner, 13 juillet 1897. Voici la vérité sur l'affaire Dreyfus. Dreyfus est innocent. Mais on étouffe l'affaire. Non seulement on sait au ministère de la guerre que Dreyfus est innocent, mais on connaît le coupable, on connaît le criminel. Et ces gens-là ont le courage de résister au cri de leur conscience qui leur dit là-bas, à l'île du Diable, il y a un innocent qui se meurt sans doute, qui meurt trop lentement, et tu le laisses mourir dans la honte et la dégradation, condamnant sa famille, ses enfants, sa femme à subir le mépris du monde. Le coupable s'appelle Valzin Esterházy.
Le lendemain de la rédaction de cette note privée, sous la main d'August Schorr-Kessner, le vice-président du Sénat décide de prendre la parole devant ses collègues sénateurs.
Seulement, il y a un problème. Le problème, c'est qu'en fait, il dit à tout le monde qu'il a les preuves de l'innocence de Dreyfus et de la culpabilité d'un autre, dont il ne donne pas le nom, bien évidemment. Et on lui demande de fournir ses preuves. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire pourquoi ? Puisqu'il a fait une promesse à Louis Le Blois qui est de ne pas dire d'où vient l'information et que surtout, il n'a pas les documents qui peuvent prouver effectivement cette conviction. Donc ça va durer des mois et des mois. Pourquoi ? Parce que Louis Le Blois est complètement coincé. Louis Le Blois n'ose pas avouer à Picard qu'il n'a pas tenu cette promesse. Et j'ai retrouvé des papiers incroyables de Schorr-Kessner dans lesquels il s'énerve en disant « Mais c'est impossible, quoi. Il faut que cet homme, Picard, aille jusqu'au bout de ce qu'il a fait. Il n'est pas possible qu'il me bloque comme ça. » Et en plus, Schorr-Kessner est attaqué dans tous les sens. On le traite de gâteux, de sénile, etc., etc.
Vous avez vu cette campagne ignoble ? Éminence grise de la trahison. Gorille, lipomateux, immondice qu'il faut pousser à l'égout. C'est de moi, Schorr-Kessner, qu'il s'agit. Moi, le dernier représentant de l'Alsace française.
Et donc, finalement, il dit à Le Blois, il faut absolument me libérer. Et donc, Le Blois, pour le libérer, doit demander l'autorisation à Picard. Il écrit à Picard, et Picard lui répond, je ne veux plus jamais entendre parler de cette affaire, et si jamais tu me réécris, je brûlerai tes lettres. Et donc, en fait, Schorr-Kessner se retrouve dans cette situation absolument terrible, qui est que il sait quelque chose, il a dit à tout le monde qu'il le savait, mais il ne peut pas le montrer. Et il ne peut pas le montrer pourquoi ? Parce qu'il est bloqué par Picard, qui, à ce moment-là, obéit aux ordres, et c'est normal, parce que c'est son rôle. Voilà. Et donc, en fait, l'affaire est bloquée.
L'affaire est bloquée, certes, mais cette intervention de Schorr-Kessner, un Alsacien de confession protestante, sort pour la première fois le dossier Dreyfus de son judaïsme. Un non-juif s'intéresse au capitaine et ses capitales, car l'affaire devient désormais politique au nom de la justice et de la vérité. Mais Picard s'obstine à ne pas donner le nom d'Esterházy à la presse et l'affaire n'avance plus. C'est alors qu'en octobre 1897, Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, a un coup de génie.
Mathieu, je pense, a inventé la communication au sens moderne du terme. C'est vraiment un type hyper malin. Et il a fait faire des affiches qui sont dans tout Paris, sur lesquelles on voit un fac-similé de l'écriture de son frère, un fac-similé de l'écriture du bordereau sur la base de ce qui a été publié par le journal Le Matin un an avant, le 10 novembre 1896. Et en énorme capital d'imprimerie, il a fait écrire « Comparer, juger ». Son idée, c'est que les gens regardent et que les gens se disent « Les écritures se ressemblent ». Mais Il y a des lettres qui sont pas pareilles. Les doubles S sont faites de façon différente. Les A majuscules ne sont pas les mêmes. Le S majuscule n'est pas pareil, etc. Et que peut-être, les gens vont se dire, mais si les écritures sont pas identiques, c'est que c'est peut-être pas lui qui a écrit. Si c'est pas Dreyfus qui a écrit, peut-être qu'il est pas coupable. Et donc, que peut-être, du doute, comme ça, se met à naître dans les esprits. Et puis, il a un deuxième rêve, inatteignable. C'est qu'un jour, quelqu'un passe devant l'écriture du bordereau et se dise, cette écriture, je la connais. Et c'est ce qui va se passer.
Vous iriez me voir, monsieur de Castro? Je le souhaitais vivement.
Eh oui.
Un banquier, Jacques de Castro, qui a en charge les dossiers. Et quand je dis les dossiers, c'est au sens le plus moderne du terme. Les dossiers d'Esterhazy, puisqu'Esterhazy est un escroc qui a escroqué toute sa famille, qu'entretient une prostituée, qui fait tout pour trouver de l'argent et qui a des gros besoins.
Il m'est impossible, monsieur, de continuer à gérer votre portefeuille si nous n'y mettons pas de l'ordre.
Je ne suis pas un homme d'ordre, monsieur, je suis un homme de guerre. La spéculation en bourse est une guerre où il faut de l'ordre, commandant.
Un jour, il reçoit une lettre d'Esterhazy. Il la lit, il sort, c'est lui qui raconte ça. Et là, il y a les gens qui collent les affiches. Et il y a un des colleurs d'affiches qui lui donne l'affiche. Il regarde l'affiche, il est stupéfait.
Mais cette écriture...
Il remonte chez lui, il prend la lettre qu'il vient de recevoir, il compare avec l'écriture, c'est la même.
Mathias, vous pouvez venir une seconde? Tout de suite, monsieur de Castro.
Il cherche la famille Dreyfus via Léa Damar, la belle famille. Il trouve Mathieu Dreyfus, il a rendez-vous avec Mathieu 15 jours après. Et il dit à Mathieu, je crois que je viens de trouver le véritable traître, celui à la place duquel votre frère a été condamné. C'est un de mes clients, il s'appelle le commandant Esterhazy.
J'ai dû rompre avec lui, c'est un irresponsable. Couvert de dettes, toujours à la limite de l'escroquerie ou l'indélicatesse.
C'est l'élément qui nous manquait. Le fait nouveau qui peut entraîner la révision du procès.
Mathieu Dreyfus demande un rendez-vous à Scherer Kessner. Scherer Kessner lui dit « Je ne vous dirai rien ». Mathieu lui dit « Je vous propose un marché. Je vous donne un nom. Si le nom est le même que le vôtre, vous me dites oui, et c'est bon ». Scherer Kessner accepte. Mathieu Dreyfus dit « Le véritable traître s'appelle Esterhazy ». Scherer Kessner lui dit « Vous avez raison ». Mathieu Dreyfus dénonce Esterhazy. Et là, l'affaire est lancée.
Je le sais depuis des mois.
Quel temps perdu, n'est-ce pas ?
Beaucoup plus que vous ne pensez.
Picard n'a rien à voir dans cette affaire-là. Ça n'empêche qu'il est un héros. Mais en fait, c'est ce concours de circonstances incroyables qui va faire qu'effectivement, Mathieu Dreyfus va trouver l'identité du véritable traître. S'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances, ça aurait pu durer encore des mois et des mois et des mois.
Grâce à un coup du sort extraordinaire, la famille Dreyfus connaît désormais le nom du véritable traître. L'armée n'a donc plus d'autre choix que de lancer une enquête judiciaire contre Esterhazy. Et à la Chambre des députés, certains élus commencent à évoquer une affaire Dreyfus. Et puis, fin novembre 1897, Émile Zola entre en scène.
Tu sais, Dreyfus, il vit dans une case. Gardez jour et nuit, les fers aux pieds. Ils ont peur qu'on l'enlève. Et en ce moment, toute la presse de l'état-major traîne dans la bouche Scherer Kessner.
Qui c'est encore celui-là?
Le vice-président du Sénat. Le dernier parlementaire vivant des provinces arrachées de 71. Tu sais l'Alsace? Un saint.
Lettre d'Émile Zola à sa femme Alexandrine, le 24 novembre 1897. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Un article écrit en coup de foudre sur Scherer Kessner et l'affaire Dreyfus. J'étais hanté. Je n'en dormais plus. Il a fallu que je me soulage. Je trouvais lâche de me taire. Tant pis pour les conséquences. Je suis assez fort. Je brave tout. L'article paraîtra demain dans le Figaro. Cette affaire Dreyfus me jette dans une colère dont mes mains tremblent. Je désire élargir le débat, en faire une énorme affaire d'humanité et de justice.
De son côté, le commandant Esterhazy, un brin bravache, profite de se savoir protégé par l'état-major pour fanfaronner devant la presse et ses supporters.
Pour conclure à la hussarde, ce qui me va très bien et qui ne me déplaît pas, je vous dirai ceci, messieurs. Je ne crains rien. Mes aïeux ne m'ont pas légué la peur en héritage, je ne crains rien, aucune force humaine ne m'arrêtera. Quant à mes diffamateurs, je les emmerde.
Dans le même temps, l'état-major intrigue pour que l'enquête qui vise Esterhazy se solde par un non-lieu.
Le problème, c'est que Esterhazy demande lui-même, c'est une forte tête, et il demande lui-même, il mène un peu, il tire un peu les ficelles, il s'amuse comme un fou, et il demande lui-même à passer en procès. Et il oblige en fait tout le monde à aller jusqu'au bout. des responsabilités qu'ils ont commencé à engager. Et donc, il va y avoir un procès.
L'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé.
Ce procès, bien évidemment, va être truqué complètement. C'est-à-dire que il n'est pas question qu'Esterhazy soit coupable. Parce que si Esterhazy est coupable, Dreyfus est innocent. Si Dreyfus est innocent, l'état-major est coupable. Donc en fait, on va obtenir l'acquittement d'Esterhazy, ce qui est plutôt malin. Puisqu'en droit français, on peut réviser une condamnation, mais pas un acquittement. Ça s'appelle le respect de la force jugée. Donc à partir du moment où un véritable coupable a été innocenté du crime qu'il a commis, il n'y a plus d'affaire Dreyfus. Il ne saurait plus y avoir d'affaire Dreyfus, comme l'avait dit le président du Conseil, Jules Méline, quelques semaines avant à la tribune de la Chambre. Donc l'affaire est close.
Le Conseil de guerre prononce l'acquittement du commandant Esterhazy.
Le véritable coupable est tranquille. Il a été blanchi par un tribunal militaire.
Mes amis, je vous remercie.
C'est terminé, il n'y a plus d'affaire Dreyfus. C'est fini. L'affaire Dreyfus prend fin le 12 janvier 1898.
Mon acquittement est une victoire de l'armée. Une victoire de la France. Cette victoire, nous allons la fêter ensemble. Mais avant, il faut que j'aille signer ma levée des coups. Attendez-moi!
Mathieu Dreyfus, dans L'affaire telle que je l'ai vécue, publié en 1978. Le jugement, qui déclarait à l'unanimité Esterhazy non coupable, fut accueilli dans la salle par des hurlements de joie. Puis, les cris redoublés de « Vive l'armée !»« Vive la France !»« À mort les Juifs !»« À mort le syndicat !»« À mort les vendus !» retentirent à côté de moi. Lorsque je voulus sortir, il me fallut traverser une foule menaçante. Je vis le colonel Picard devant moi. Nous sortîmes lentement, avec les plus grandes difficultés, insultés par les uns, menacés par les autres, et nous fûmes poursuivis par les cris et les clameurs de ces énergumènes jusque dans la rue toute noire, où le colonel Picard disparut dans l'obscurité.
En conclusion de ce quatrième épisode, retenez d'abord que sans la rigueur et la droiture du colonel Picard, le dossier Dreyfus ne serait peut-être jamais remonté à la surface. C'est bien lui qui démasque Esterhazy. Et c'est surtout grâce à lui si l'affaire Dreyfus est relancée. Même si au départ, ses intentions étaient avant tout de sauver l'honneur de l'armée, plus que de venir en aide à un citoyen juif injustement condamné.
Nous sommes confrontés à un sérieux problème, en général. Je crois que plus tôt nous le réglerons, et mieux ce sera.
À partir de l'automne 1897, notamment grâce à Auguste Scheurer-Kestner, les Dreyfusards sont un peu plus nombreux qu'au départ. Mais leur ardeur est vite plombée par l'acquittement d'Esterhazy le 11 janvier 1898. Présent lors des audiences de ce procès truqué, le colonel Picard sait mieux qu'un autre que cette grenade dégoupillée va finir par exploser. Et d'ailleurs, dès le lendemain, Émile Zola mobilise tout son talent.
L'acquittement d'Esterhazy était prévisible. Il fallait s'y préparer. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République.
Allez-y, monsieur Zola, je suis prêt.
Comment le j'accuse d'Émile Zola à la une de l'Aurore fait entrer l'affaire Dreyfus dans l'histoire de France, c'est l'horizon du prochain épisode. Alfred Dreyfus, le combat de la République. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Clotilde Debézère et Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Prochain épisode, Z. comme Zola. Alfred Dreyfus, Le combat de la République est un podcast original de France Inter.